Nous sommes le 1er mai 2011 dans une zone isolée de la montagne de Dundoksan, dans la ville de Mungyeon, en Corée du Sud. Le corps d'un homme portant simplement des sous-vêtements blancs et une couronne d'épines sur la tête est retrouvé, les mains et les pieds cloués à une croix en bois dans une carrière de pierre abandonnée après les vacances de Pâques. La scène tragique ressemble à une reproduction de la crucifixion de Jésus. On la dirait tout droit sortie d'un film. Les bras du pauvre homme sont retenus par des bandages de compression, eux-mêmes attachés à la croix. Il y a une trace de couteau sur le flanc droit de son abdomen et des cordes en nylon sont attachées autour de son cou et de son estomac. Deux plus petites croix sont plantées de chaque côté de la grande croix et sur la petite croix de gauche, il y a un miroir qui a été fixé de sorte à ce qu'il reflète le corps attaché sur la grande croix. Et enfin, il y a un autre miroir, c'est un miroir plus grand qui lui a été placé devant le corps et à côté de ce miroir se trouve une horloge de bureau. Et les policiers ont une théorie concernant les deux petites croix et ils pensent qu'elles représentent les deux voleurs crucifiés avec Jésus puisqu'il n'a pas été crucifié seul, il était accompagné de deux bandits. Et près du corps, les policiers vont retrouver un marteau, des clous, une perceuse manuelle, un couteau, des planches de bois, des instructions sur la manière de construire une croix avec des mesures exactes, ainsi qu'un tissu rouge semblable à celui qu'aurait porté Jésus. Et à 30 mètres du corps, il y a cette fois une perceuse électrique ainsi qu'une tente. Qui est cette personne? Comment est-elle arrivée là? Et aussi et surtout, les enquêteurs vont devoir résoudre une autre énigme. Est-ce que cette personne a bénéficié d'aide? Ou est-ce qu'elle a été tuée? Nous allons aujourd'hui nous pencher sur cette affaire particulièrement étrange qui a choqué la nation coréenne. Aujourd'hui, la triste histoire de la crucifixion de Mungyeon. Après sa découverte, le corps est envoyé chez le légiste pour autopsie. Et l'autopsie conclut que la victime est Kim. Alors sachez que Kim n'est pas le vrai nom de la victime. Son identité, comme c'est souvent le cas en Corée du Sud, a été protégée. On sait simplement que cette personne décédée était chauffeur de taxi, était âgée de 57 ans, et selon l'équipe médico-légale, Kim est mort de suffocation par pendaison, ainsi que des suites d'une importante perte de sang causée par la blessure située sur le flanc droit de son abdomen. Et à la question « s'est-il infligé tout ça lui-même ?», eh bien l'équipe médico-légale est arrivée à la conclusion que oui, selon elle, Kim avait de toute évidence envie d'en finir. Il n'y a, selon les médecins, aucun signe de lutte ni aucune autre trace ADN que celle de Kim sur le lieu du crime. Mais cette théorie ne va pas convaincre tout le monde, au contraire, elle ne va cesser de diviser. Comment est-il possible de se crucifier sans l'aide de personne? Nombre d'enquêteurs estiment que c'est impossible. Selon eux, si Kim avait vraiment décidé d'en finir de cette manière, il aurait eu besoin d'un complice. Mais avant d'aller plus loin et d'analyser les différentes théories, je vous propose de se concentrer dans un premier temps sur la vie de la victime, Kim. Kim était donc un chauffeur de taxi de 57 ans. Il était marié et père de deux enfants. Il vivait une vie tout ce qu'il y a de plus tranquille, jusqu'à ce que l'un de ses deux fils ne tombe gravement malade. Et le pauvre a besoin d'une greffe du foie. Malheureusement, son fils ne va pas survivre et mourir à l'âge de seulement 22 ans, après une pathétique opération ratée. Et pour ne rien arranger, peu de temps après la mort de son fils, sa femme a demandé le divorce. Kim a dû déménager et c'est là qu'il est parti s'installer dans une chambre d'hôtel de cette ville, ville qui lui est inconnue, de la ville de Mungyeon. Et donc selon la police, Kim a soigneusement planifié cette crucifixion et ce pendant un long moment. Les officiers vont par exemple découvrir que peu de temps avant sa mort, Kim avait vendu son taxi, il avait quitté sa chambre qu'il louait à Mungyeon. En mars 2011, soit le mois précédant la découverte de son corps, il avait même acheté une nouvelle voiture. Et chose étrange, lors de l'achat de la voiture, il a demandé au concessionnaire s'il pouvait récupérer la voiture directement à sa sortie d'usine. Il a insisté pour que personne ne la conduise avant lui. Donc il s'est présenté devant l'usine, il a récupéré la voiture et a demandé à son frère, qui l'accompagnait alors, il lui a demandé de placer une serviette sur le siège conducteur et a insisté pour que ce soit lui qui monte en premier dans le véhicule. Kim, vous l'aurez compris, voulait être le premier à utiliser cette voiture. Ainsi, la police pense qu'il voulait recréer l'histoire de Jésus le plus fidèlement possible. Souvenez-vous, Jésus était monté sur un âne sur lequel personne n'était jamais monté auparavant. Et donc c'est sans doute pour cette raison que Kim voulait être le premier à monter dans sa nouvelle voiture. Kim s'est plus tard rendu au volant de cette nouvelle voiture jusqu'à la carrière de pierre abandonnée où sera par la suite retrouvé son corps. Il y a ensuite installé une tente dans laquelle il a vécu un certain moment. Et le 13 avril 2011, il a acheté du bois directement dans une scierie. Peu de temps après, il a transféré l'équivalent de 6352 euros de son compte bancaire vers celui de son frère. Il a ensuite fermé son compte bancaire et il a annulé son abonnement de téléphone portable. Et pour toutes ces raisons, nombre d'enquêteurs, ce sera d'ailleurs la théorie officielle, Kim était un homme au bout du rouleau et il s'est crucifié tout seul. Et je vais vous raconter d'ailleurs comment il aurait procédé. Mais à l'annonce de cette sordide affaire, les proches de Kim, eux, sont restés perplexes. Selon un ami de Kim, Kim n'était pas un homme très croyant. Il a donc du mal à croire que Kim ait pu prendre une telle décision, celle de se crucifier. Pour lui, ça n'a aucun sens. En plus de ça, selon cet ami, Kim était un homme doux et discret, et faire une chose aussi flamboyante n'était absolument pas dans son tempérament. Il détestait par-dessus tout se faire remarquer. Cependant, le frère aîné de Kim reconnaît, lui, que peu de temps avant sa mort, Kim lui avait demandé de l'accompagner à l'église. Et ça l'avait étonné à l'époque. Sans compter que l'étude de l'historique de la tablette de Kim indique qu'il a fait nombre de recherches sur la mort de Jésus. C'était un sujet qui l'intéressait particulièrement. Donc, selon les enquêteurs, la perte de son fils et de sa femme a sans doute rendu Kim très vulnérable. Il se serait alors réfugié dans la foi, et c'est le désespoir qui aurait alors provoqué son passage à l'acte, un passage à l'acte teinté de mysticisme. Et d'ailleurs, il a décidé d'en finir à un moment symbolique, à savoir pendant les vacances de Pâques qui célèbrent justement la résurrection du Christ. Mais quand même, s'attacher seul à une croix et s'infliger des blessures successives et très graves comme ça, est-ce possible ou a-t-il été aidé d'un tiers ou encore une fois pire? Aurait-il été tué dans une mise en scène sordide? Eh bien, étudions à présent les différentes théories. La première, c'est que Kim s'est crucifié lui-même sans l'aide de personne. Après tout, des instructions sur la manière de construire une croix ont été découvertes, ce qui laisse penser qu'il a construit lui-même la croix. Et enfin, selon la police sud-coréenne, bien que le processus soit complexe, il est tout à fait possible de se crucifier soi-même. Ils en sont arrivés à cette conclusion après avoir réalisé une simulation. Et voici donc, selon eux, comment Kim a procédé. Kim a construit le socle ainsi que la croix qui reposait dessus. Jusqu'ici, aucune difficulté particulière, il avait même un plan. Il a ensuite planté deux clous de chaque côté de la croix sur la branche horizontale de la croix. Puis, il a placé des bandages de compression de chaque côté de la croix. Et enfin, il a attaché des cordes, l'une qui servira plus tard à attacher sa taille et l'autre à attacher son cou. Mais avant de s'attacher, il a pris soin de placer deux autres petites croix en bois. Souvenez-vous, de part et d'autre de la grande structure. Il a fixé sur celle de gauche un miroir qu'il a orienté de manière à ce que ce miroir reflète le haut de son corps et plus particulièrement sa taille, afin qu'il puisse vérifier, lorsqu'il se poignardera, s'il le fait bien au bon endroit de son abdomen. De toute évidence, il voulait que la blessure soit exactement au même endroit que celle du Christ. Puis, il a placé sa couronne d'épines sur sa tête avant de placer son dos contre la croix, donc à ce moment, il n'est pas encore attaché. Il aurait ensuite placé son pied droit sur la plateforme en bois, et là, attention, âme sensible, s'abstenir, il aurait ensuite planté un clou dans son pied droit, en prenant soin de tordre le clou avec son marteau, afin qu'il ne bouge pas, qu'il soit solidement fixé sur la plateforme. Il est ensuite redescendu doucement en position de squat, le dos toujours collé à la croix, soulevant ses talons pour ne pas perdre l'équilibre. Et il aurait ensuite cloué son pied gauche tout en tordant également le clou avec le marteau afin de s'assurer encore une fois que son pied ne se détache pas de la plateforme. Une fois ses deux pieds cloués, il a attaché la corde au niveau de sa taille, il a placé celle au niveau de son cou. Ensuite, s'aidant du miroir qu'il avait fixé sur la petite croix de gauche, il s'est poignardé sur le côté droit de son abdomen avec le couteau qu'il avait préparé. Puis, étape la plus difficile, c'est là qu'il aurait utilisé la petite perceuse manuelle. Il a fait un trou dans sa main gauche, puis il a fait un trou dans sa main droite pour qu'il n'ait plus que finalement à glisser ses mains sur les clous déjà plantés dans la grande croix. Et d'ailleurs, ce mode opératoire diffère de la crucifixion de Jésus, puisque Jésus avait des clous plantés dans les poignets et non dans les paumes de la main comme Kim. Mais on pense que Kim a procédé de cette manière, qu'il a effectué cette variante, n'ayant finalement pas d'autre choix. On pense que peu de temps après, Kim a alors perdu connaissance, à cause notamment de l'importante perte de sang causée par ses blessures. Son corps se serait alors déplacé vers l'avant, ce qui a fait que la corde qui l'attachait au niveau de son cou, eh bien, l'a étranglé, ce qui a causé finalement sa mort. Et c'est cette théorie qui sera d'ailleurs retenue par la police. Mais beaucoup, comme je vous le disais, n'y croient pas. Pour eux, ça fait beaucoup de blessures auto-infligées. Et selon ces mêmes personnes, il est humainement impossible de tolérer autant de douleurs tout en continuant à se provoquer d'autres blessures. Pour beaucoup, ça n'a pas de sens. Selon les partisans de cette théorie, si l'on regarde le corps de Kim, il y a 5 blessures. Pour rappel, une sur le pied droit, une sur le pied gauche, une autre sur la main droite, une autre sur la main gauche, et la dernière, la plus importante, celle sur le côté droit de l'abdomen. Et pour beaucoup, Kim n'aurait pas eu la possibilité de dérouler seul son plan. Soit il se serait évanoui de douleur, soit il aurait perdu l'équilibre, soit il aurait fini par perdre connaissance à cause de l'importante perte de sang due à ses blessures. Quoi qu'il en soit, il se serait effondré à un moment ou à un autre. Certains ont répondu que peut-être que Kim avait ingéré des produits anesthésiants qui lui ont permis de pouvoir supporter la douleur et de pouvoir suivre toutes les étapes de son plan sans trop souffrir. Mais ce n'est pas le cas, puisque le rapport d'autopsie est clair, aucune substance réduisant la sensibilité à la douleur n'a été retrouvée dans le corps de Kim. On a bien retrouvé, sur les lieux du crime, une substance permettant d'atténuer la douleur, mais la police affirme que Kim ne l'a pas utilisée, car on n'a pas retrouvé ce produit dans son organisme, et par ailleurs, selon eux, ce sont probablement ses convictions profondes et sa foi qui l'ont aidé à endurer de telles douleurs. Et d'ailleurs, les policiers ont même affirmé que Kim a pris soin d'enfoncer les clous dans la chair de ses pieds en évitant les os. Et pour eux, c'était fait exprès et c'était pour rendre la douleur plus supportable. Mais non, pour beaucoup, c'est impossible. Il a au minimum été aidé. Et des éléments vont aller dans ce sens. Kim avait, souvenez-vous, des trous dans ses mains. Et à côté de lui, la police n'a trouvé qu'une petite perceuse manuelle. Or, s'il avait fait lui-même un trou dans sa main droite avec cette petite perceuse, il n'aurait pas pu prendre la perceuse dans la main droite pour faire des trous dans la main gauche, dans la mesure où il n'aurait pas pu, selon les médecins, utiliser ses doigts, la blessure de la main étant trop importante. Et c'est pour ça que beaucoup pensent qu'un complice a fait les trous dans les mains de Kim, avec non pas la petite perceuse manuelle, mais la perceuse électrique qui a été retrouvée à 30 mètres du corps de Kim. Et c'est donc ce complice qui aurait ensuite placé les mains de Kim sur les clous qui avait été, souvenez-vous, préalablement cloué sur la grande croix en bois. Ces personnes pensent également que le coup de poignard à l'abdomen ainsi que les trous dans les mains de Kim ont bien évidemment provoqué une importante perte de sang, que Kim a donc probablement perdu connaissance à un moment ou à un autre et que c'est son complice qui a pris la relève et continué la crucifixion alors que Kim était évanoui. Et les policiers vont tenter de vérifier, même s'ils n'y croient pas vraiment, cette hypothèse. Et ils vont trouver un suspect. C'est un homme surnommé Ju. Sachez que ce n'est pas son vrai nom, que son identité a lui aussi est protégée. C'est un ancien pasteur et apiculteur de 53 ans résidant dans la ville de Mungyeon. Le magasin dont il était propriétaire se trouvait d'ailleurs non loin de la carrière de pierre abandonnée où a été retrouvé Kim. Et c'est d'ailleurs lui qui a retrouvé le corps de Kim. Mais il n'était pas seul ce jour-là. Il y avait effectivement deux autres témoins. Il était accompagné de deux autres apiculteurs, un père et son fils. Et tous cherchaient des spots pour pouvoir y installer des ruches. Après avoir trouvé un assez bon endroit, l'un d'entre eux a suggéré d'y installer une ruche, puis a proposé de redescendre. Mais Ju a été le seul à insister pour qu'il continue à monter plus haut. Ils ont donc continué à grimper la montagne et peu après, Joe a pointé son doigt en direction de la carrière de pierre abandonnée. C'est à ce moment que les autres ont vu le corps de Kim. Père et fils étaient horrifiés, à l'exception de Ju, qui lui s'était mis à prendre des photos du corps de Kim avec son appareil photo. Et plus tard, on découvrira que Ju a posté les photos du corps de Kim sur son site internet chrétien, site dont il était le propriétaire et auquel, devinez quoi, Kim était inscrit. Donc le comportement de Ju est assez étrange. Quelle personne normale irait prendre par exemple les photos d'un corps sur une scène de crime pour les poster sur internet? Quoique vous me direz, on a déjà vu ça sur YouTube. Mais terrifiés, les deux autres apiculteurs s'étaient rendus au plus vite au commissariat afin de prévenir les autorités, mais Ju avait insisté, lui, pour rester près du corps. Et quand père et fils étaient revenus un peu plus tard accompagnés de la police, Ju n'était plus là. Et des journalistes sud-coréens ont mis le nez dans cette affaire, ne croyant pas que Kim s'est crucifié seul. Ils avaient alors mené l'enquête et s'étaient intéressés de plus près à Ju et à la relation qu'il entretenait avec Kim. Interrogé par un journaliste, Ju a expliqué qu'il cherchait simplement un endroit où installer sa ruche quand il est accidentellement tombé sur le corps de Kim. Selon lui, il a pensé au début que c'était un mannequin, mais c'est horrifié qu'il s'est rendu compte que c'était en fait un être humain. Et quand les journalistes ont demandé à Ju ce qu'il faisait dans la vie, il leur a répondu qu'il était apiculteur, mais il a aussi mentionné qu'il tenait un site chrétien et il a insisté sur le fait que par contre il n'était pas très actif sur ce site. Quand les journalistes lui ont demandé s'il connaissait Kim, eh bien il leur a répondu ne pas vraiment le connaître, du moins sans plus, bien qu'ils se soient croisés 2 ans avant sa mort. Selon lui, c'est Kim qui l'avait contacté pour lui demander de se rencontrer et lors de cette rencontre, Kim lui a expliqué qu'il se demandait ce que ce serait d'aller au-delà des souffrances du Christ. Kim avait ajouté qu'il ne pouvait pas s'imaginer à quel point il serait douloureux d'ériger une croix, de s'agenouiller et de planter des clous dans son propre corps. Ju a affirmé avoir trouvé ça étrange. Après l'interview, les journalistes ont passé le site de Ju au peigne fin et ils ont découvert que peu de temps avant la mort de Kim, eh bien Kim et Ju s'échangeaient des messages réguliers sur le forum du site. Ju avait donc menti aux journalistes quand il disait ne pas vraiment connaître Kim. De toute évidence, ils se connaissaient très bien. Les journalistes sont donc retournés rendre visite à Ju, mais cette fois, il était absent. Et étrangement, après la deuxième visite des journalistes, Ju a fermé son site internet et à ce jour, il n'est plus accessible via internet. De nombreuses personnes pensent donc que Kim était psychologiquement vulnérable après son divorce et la mort de son fils, qu'il aurait dans la foulée rencontré Ju, et que c'est Ju qui l'aurait persuadé de se crucifier. Et il faut savoir qu'étrangement, même le lieu de la crucifixion de Kim a un lien avec Ju. En effet, la carrière de pierre dans laquelle Kim a été retrouvée était en réalité connue de très peu de personnes, et il était très difficile de la trouver si on n'habitait pas la ville de Mungyeon. Or, Kim n'y a jamais vécu, si ce n'est rapidement dans cet hôtel. Il n'est pas du tout familier avec la région, contrairement à Ju, qui lui a longtemps vécu à Mungyeon. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on sait sur cette histoire. Comme je vous le disais, la police a retenu une seule hypothèse. Kim s'est infligé toutes ses blessures tout seul, porté par sa foi. Et vous l'aurez compris, ça ne satisfait qu'une partie de la population. D'autres pensent qu'il a été aidé. Et vous, qu'en pensez-vous? Kim s'est-il vraiment crucifié seul ou Ju l'a-t-il aidé? Pire, est-ce qu'il l'aurait même convaincu? Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire.